La dernière fois, on a parlé justement de demander pardon. C'était plutôt le côté de la demande de pardon. Là, c'est le côté de pardonner, et la fois prochaine aussi. Et là, donc, il y aura 4 points. Les bénéfices du pardon, ou c'est le contraire, mais les conséquences négatives du non-pardon. Après, ce sera l'importance du pardon pour nous chrétiens. Après, une partie un peu plus longue, les faux pardons, les pseudo-pardons. Et puis après, ça sera tout petit, mais le pardon. Et la fois prochaine, c'est donc comment pardonner. Parce qu'on est d'accord sur le fait qu'il faudrait pardonner, mais après, comment s'y prendre? Ça peut devenir plus compliqué. Donc, voilà. Alors, d'abord, les bénéfices du pardon, et d'abord, on pourrait dire, les retombées négatives quand on ne pardonne pas. Ça, je vais pas trop détailler parce que ça me semble assez évident, hein. Si on pardonne pas, bon, on est en colère. On a envie de se venger. Ça, c'est quand même très présent, on voit. Et du coup, la loi du talion était quand même pour canaliser un petit peu ça. Parce que Lamech, qu'est-ce que disait notre brave Lamech ? Mon père Cain, pour une offense, on a tué 7, mais moi, pour une offense, je viens en tuer 70. Alors là, c'est vraiment le mal, c'est l'escalade, hein. Alors la loi du talion, elle essayait de canaliser un minimum les choses. Bon, c'était pas parfait, mais c'était mieux que rien. Voilà. Mais pour canaliser un peu la vengeance, hein, parce que vous savez aussi, il y a une vengeance active. Bon, Lamech, hein, c'est un bon exemple. Mais il y a aussi la vengeance passive. Vous savez ce que c'est la vengeance passive? C'est bouder. La vengeance passive, c'est bouder ou faire en sorte que, voilà, c'est quelque chose qui est alimenté par la rancune. Alors on parle pas trop à l'autre. On n'essaie pas de lui faire plaisir en tout cas. Hein. On lui fait payer les choses élégamment. Je sais pas si c'est le mot est adapté, mais on fait pas des choses vraiment mauvaises, mais on fait pas de choses bonnes pour lui. Voilà. Alors ça c'est le non pardon. On voit bien que ça coupe la relation, et la relation, elle est un peu sclérosée. Quand on ne pardonne pas, ben ça vient vite l'enfer. Après, bon, ça rejoint, mais c'est le ressentiment. Et le ressentiment, l'image qui me venait, c'est comme si vous laissiez quelque chose mijoter sur le feu. Hein, votre colère, vous l'entretenez un petit peu quand même par le ressentiment. Une citation du Siracide. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur s'obstine. Et du coup, ça a des conséquences après sur la santé aussi. Hein, mais cette rancœur, ce ressentiment, ça affaiblit la volonté, hein, et ça obscurcit aussi l'intelligence. On n'y voit pas très clair, hein, quand on est plein de ressentiments. Et ça a des conséquences simplement sur notre santé. Hein. Quelquefois, il y a des gens qui développent des... Alors, les maladies ont une origine somatique aussi. Hein. Je ne veux pas dire que tout vient parce que vous avez du ressentiment. Mais ça n'aide pas. Alors, ça, ce qui est sûr, c'est que ça n'aide pas à avoir une bonne santé. Il y a beaucoup de maladies psychosomatiques, comme on dit. Justement, alors on le verra un tout petit peu, mais surtout la prochaine fois, c'est parce qu'il y a des émotions négatives là qu'on entretient en nous, mais qui nous empêchent un peu de vivre tant qu'on n'a pas pardonné, dont ce ressentiment notamment. Et ce ressentiment, ça s'en ressent aussi dans nos relations. Quelquefois, on peut pas se... Mettons, on a été trahi par quelqu'un, mais du coup, on a tendance à pu croire à l'amour des autres, et du coup, tant qu'on n'a pas guéri ce ressentiment, ça nous ferme la route pour l'avenir, quelquefois. Et à l'inverse de ces effets négatifs du non-pardon, il y a les bienfaits du pardon. Et ce qui fait que plutôt aux États-Unis et au Canada, ils ont développé comme une technique psychologique pour pardonner, en dehors de la foi chrétienne, même si souvent c'est des chrétiens qui font ça. Donc, ils essaient de faire en sorte, ils accompagnent, il y a des groupes de pardon pour travailler, pour essayer de pardonner. Et on verra la prochaine fois que pour pardonner, il y a un certain nombre d'étapes. Les premières étapes, c'est plus d'ordre psychologique. On a besoin de notre colère, il ne faut pas mettre un couvercle dessus, il faut voir comment elle peut sortir, notre colère, parce que c'est plutôt sain en tant que telle, la colère. Après, si on ouvre les vannes et que c'est incontrôlé, là, c'est là que c'est pas sain, mais d'être en colère parce qu'on nous a fait quelque chose de mal, c'est on ne peut plus normal. Après, c'est comment je canalise cette colère et qu'est-ce que je vais en faire. Ça, c'est là que... Mais il ne s'agit pas d'éteindre cette colère purement et simplement. Et du coup, il y a une belle image du pardon, moi, que j'aime beaucoup, c'est celle de la cicatrice. La cicatrice, mais il faut d'abord que ça ne soit pas trop infecté. Sinon, si on enferme le mal, ça... Donc, avant de cicatriser, il faut d'abord nettoyer quand même. Je suis pas très doué, hein. J'ai été infirmier quand même à l'armée, hein. Je vous cite. mais bon, il faut nettoyer un minimum pour pas enfermer le mal à l'intérieur. Et dans quand on a été offensé, mais il y a un petit travail de désinfection à faire. Et puis après, quand ça se voilà, une cicatrice, c'est pas très beau a priori. Ça nous rappelle qu'il y a eu quelque chose, mais en même temps que la vie a eu le dessus. J'aime bien cette image de la cicatrice. C'est la vie qui a repris le dessus. Mais Jésus, il apparaît le soir de Pâques, il apparaît avec la marque des clous, mais glorifié. Alors ça, c'était les bénéfices du pardon et les conséquences négatives quand on ne pardonne pas. Après, c'est l'importance du pardon pour les chrétiens. Alors, vous pourriez faire un exercice, mais il est question de pardon quasiment à toutes les pages de la Bible. C'est impressionnant. Ça commence par le chapitre 3 de la Genèse, mais on n'est quand même pas très loin du début de la Genèse, où le premier péché, et après cette promesse de Dieu de ne pas abandonner l'homme. Mais après, vous arrivez après, il y a Caïn et Abel. Il y a le mal, on voit que à toutes les pages de la Bible, c'est pas un monde meilleur, la Bible. Hein. C'est le monde tel qu'il est, avec beaucoup de mal, mais aussi beaucoup de pardon. Et ça, c'est très très marquant, combien on parle du pardon dans la Bible. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que Dieu tire jamais son parti du mal, il prend jamais son parti du mal. Et alors, je passe vraiment à grandes enjambées, mais Jésus parle souvent du pardon dans l'Évangile. Dans la prière qu'il nous a laissée, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et dans l'Évangile de saint Matthieu, il en remet une couche après. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Donc pour nous chrétiens, c'est comme une marque de fabrique, hein. Théoriquement en tout cas, après, est-ce qu'on arrive à le vivre, c'est autre chose, mais ça fait partie aussi des béatitudes, heureux les miséricordieux. Alors peut-être, quelquefois, on se culpabilise de ne pas pardonner. Alors, oui et non, on verra, le pardon c'est tout un processus. Quand c'est un processus... On démarre le processus, on n'arrive pas tout de suite au bout du processus. Ça prend quelquefois du temps. Donc, l'important, c'est de s'engager dans le processus. Après, le pardon, ça dépasse nos forces, de toute façon, dans bien des cas. Mais c'est de s'engager dans le processus, ce désir d'avancer vers le pardon. Et si vous regardez la vie des saints, il y en a tellement qui... explicitement disent leur pardon, ce qui me vient à l'esprit, c'est Saint-Étienne. Une qui me vient spontanément à l'esprit, c'est Maria Goretti, qui priait pour son agresseur. et son agresseur qui s'est converti. Après, bon, hier c'était Sainte Agathe aussi, aujourd'hui c'est des martyrs qui aussi ont pardonné. Je trouve ça très beau, combien c'est au cœur de notre foi, hein, le pardon. Comme vous savez, la communauté est parfaite, hein, et tous les frères sont parfaits, ça va de soi. Ceci dit, si on rêve de la communauté parfaite, mieux vaut partir tout de suite. Si vous rêvez du couple parfait, mieux vaut partir tout de suite. Je trouve qu'une des grandes difficultés, c'est d'avoir du mal à accepter les autres comme ils sont. On a vraiment du mal. Et le pardon, ça nous permet d'accepter non pas le monde qui correspond à mes désirs, etc., mais le monde tel qu'il est. Encore une fois, dans la Bible, c'est le monde tel qu'il est, ce n'est pas un monde imaginaire. Et on voit quand il y a le pardon, alors ça permet justement de restaurer les relations. Il y a une image que je prends quelquefois, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais elle n'est pas très bucolique. Hein. C'est imaginer une grève des éboueurs. Ben, au bout d'un... assez vite, c'est quand même... pas très, surtout s'il fait très chaud, etc. On en rajoute un peu. Ben c'est quand même assez invivable dans une grande ville. Mais notre vie, c'est ça. Il y a plein de déchets parce qu'on n'est pas parfait, etc. Et c'est le pardon qui vient évacuer tout ce qui ne va pas dans notre vie. Voilà. Alors, ça fait vraiment partie intégrante et je pense qu'on ne peut pas concevoir une vie sans pardon, c'est pas concevable. Sinon, on reste dans le rêve et on reste dans l'adolescence peut-être, mais c'est pas ça. On est appelé à vivre dans un monde réel, et le monde réel tel que nous le présente la Bible et tel qu'on le voit sous nos yeux, ben, c'est un monde de violence, c'est un monde de... Voilà, c'est dans ce monde-là que Jésus il nous veut pas hors du monde. Hein, donc, ben, alors après... Mais la fois prochaine, on verra comment pardonner. Alors je serai plus modeste, sans doute. Alors, ça, c'était un deuxième élément. C'était que j'ai vu un peu rapidement, mais c'est l'importance du pardon pour nous chrétiens. Et puis là, je vais me développer un tout petit peu plus sur des faux pardons. Parce qu'on verra que le pardon, ça demande quand même de s'engager vraiment. Le pardon, ça ne se fait pas en deux temps, trois mouvements, comme ça, toc et... Ça dépend. Il y a des petites choses qui n'ont pas de conséquences, mais il y a des choses importantes. Ça se fait pas. Ça demande du travail. Et les faux pardons, on essaie de justement de rabibocher les morceaux, là, de recoller un peu les morceaux, mais sans traiter le problème à la racine. Ça, c'est typique des faux pardons. On fait comme si de rien n'était, mais le camembert, il reste au fond du placard. Donc il se rappelle à nous régulièrement. Mais les faux pardons, c'est pas traiter le problème vraiment. On passe au-dessus, mais on ne le traite pas. Alors, je vous donne quelques faux pardons. Un premier faux pardon, c'est de nier ou minimiser le mal. Pardonner, c'est pas nier le mal. C'est pas minimiser le mal. Parce que sinon, c'est pas minimiser non plus la responsabilité de l'autre. Il l'a peut-être fait vraiment volontairement en plus. Donc, il faut pas être dans le déni par rapport au préjudice. Il y a une offense qui a pu faire beaucoup de mal, beaucoup de dégâts. On va pas se voiler la face et dire, ben non, finalement, c'est pas très grave. Si, il y a des choses qui sont très graves. Donc, le pardon, c'est jamais minimiser la faute, c'est pardonner la faute, c'est la remettre, c'est aimer au-delà de la faute, mais c'est pas la... Le pardon, c'est pas faire démission de ses droits. Alors, l'exemple qui était pris, c'est quand le... je sais plus comment il s'appelle, mais a tiré sur le pape Jean-Paul II, ben, le pape Jean-Paul II a laissé faire la justice. Il n'a pas dit non, c'est pas grave. En plus, c'était grave. Mais en même temps, il lui a pardonné. Mais l'un n'est pas contraire à l'autre. Quelquefois, on peut aller devant la justice. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne doit pas aller devant la justice. Alors, il faut peut-être, si on peut s'arranger avant, c'est mieux. Mais certaines fois, il faut aller devant la justice. Mais après, il y a manière et manière d'y aller. Et on peut être aussi très correct dans notre manière de faire. Alors, je ne vais pas développer davantage, mais un premier faux pardon, c'est nier le mal ou minimiser. Et un deuxième faux pardon, c'est d'oublier, donner l'impression qu'on a oublié. C'est laisser passer le temps et puis en passant qu'avec le temps, finalement, on oubliera. Sauf que, quelquefois, on pense avoir oublié, sauf qu'il y a des petits signes qui montrent que, on a gardé un produit inflammable. Il suffit que, de rencontrer la personne et on est très fermé. Visiblement, c'est que le pardon, il est... On pense peut-être avoir pardonné parce qu'on a essayé d'oublier, mais de fait, il y a des choses, on a beau faire, on ne les oublie pas. Hein. Ou alors, des colères subites. Alors, il peut y avoir des colères en dehors de ça, hein. Il y a différents types de colères, mais il y a des colères, si elles sont très fréquentes sur un sujet précis, peut-être qu'il y a un pardon qui n'a pas été donné, ou une forme d'indifférence et de fermeture, on ne veut pas croiser l'autre. Ce qui est important, c'est de réaliser que quelquefois des choses qu'on pense avoir oubliées, ça continue à nous travailler. Hein, ça semble être fermé sur le dessus, mais à l'intérieur, ça continue à travailler. Et ça reste très sensible. Il suffit de peu de choses et on voit que ça montre que le pardon, ça se fait pas en un jour aussi. Et quelquefois, ça demande vraiment du travail. Et justement, le pardon, c'est pas l'oubli. C'est une mémoire qui est guérie. Une mémoire qui est saine. Hein, je reprends l'image de la cicatrice. Ben, on voit la cicatrice. On sait qu'il y a une blessure. Mais la vie a repris le dessus. Donc, le pardon, c'est le contraire de l'oubli. Alors, peut-être après, justement, c'est plus sensible. Une troisième sorte de faux pardon, c'est penser que c'est en racontant son pardon, une démarche uniquement intérieure. Alors, il y a du travail qu'on peut faire et qui peut être bon par ailleurs, mais qui ne va pas jusqu'au bout du pardon. Mais on ne rencontre pas son agresseur. Alors, on essaie de comprendre pour que... Mais le pardon, ça demande aussi un pas vers l'autre. Alors, avec prudence, hein, il peut y avoir des situations là où il faut peut-être pas aller vers l'autre. Mais habituellement, le pardon, ça se fait pas simplement à l'intime de son cœur. Ça demande une démarche. Ce qui est intéressant à travers ça, c'est que le pardon, c'est pas uniquement pour se sentir bien. Parce que il y a une tendance, par exemple, ces psychologies du pardon qui peuvent avoir leur bon côté en un sens, mais qui peuvent avoir de mauvais côtés dans le sens où ce que je recherche, ce n'est pas tellement le pardon, c'est la paix intérieure. C'est assez narcissique. Vous sentez, je veux être en paix et ça trouble ma paix, donc je veux pardonner. Non, le pardon, c'est d'abord pour pardonner une personne. Ce n'est pas d'abord pour se sentir bien. Le pardon chrétien, en tout cas, c'est clair. Un autre faux pardon, c'est le pardon héroïque. Alors ça peut être très vrai de certains chrétiens qui, justement, comme Jésus nous demande de pardonner, on se force à pardonner. Alors il y a quelque chose de louable de vouloir pardonner. Mais en même temps, le pardon, c'est aussi un cadeau qui nous est fait. C'est pas à la force du poignet forcément qu'on arrive à pardonner. Il y a des décisions à prendre, bien sûr, pour arriver au terme du pardon, il y a des décisions à prendre, mais c'est pas non plus au forceps. Parce que du coup, si on est trop volontaire, trop héroïque pour son pardon, on a tendance à gommer toute la partie de nos émotions. Et le pardon, il ira jusqu'au bout si on accepte nos émotions désagréables, etc., vis-à-vis de l'offense. Mais si on veut aller un peu trop vite pour pardonner, allez, j'y vais, parce que Jésus veut que je pardonne. C'est vrai que Jésus le souhaite. Mais là encore, ça prend du temps, ça ne se fait pas forcément aussi vite que ça. Et une dernière chose, j'y reviendrai la prochaine fois, à la fin, mais je le dis parce que je l'ai déjà évoqué, je crois, la dernière fois, je ne me rappelle plus très bien, c'est pardonner ou se réconcilier, ce n'est pas la même chose. Et ça, bon, ça vaut la peine de réinsister de toute façon un peu là-dessus. Jésus nous demande de pardonner, il nous invite à nous réconcilier, mais pour se réconcilier, il faut être deux. Et quelquefois, l'autre ne veut pas. Si l'autre ne veut pas, je dois respecter sa liberté. Enfin, de toute façon, je ne l'oblige pas. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Alors du coup, quelquefois, on peut être très malheureux parce qu'on aimerait bien se réconcilier, mais on ne peut pas le faire à n'importe quelle condition aussi de se réconcilier. On ne doit pas se renier non plus. Pour se réconcilier, il faut qu'on soit cohérent avec soi-même. J'ai fait l'expérience il y a longtemps, mais ça me semblait une évidence que je ne pouvais pas me réconcilier. Enfin, je le voulais de tout mon cœur. Mais la personne, ce qu'elle aurait désiré, c'est que je dise « j'ai tout tort, t'as tout raison ». Ben non, non, parce que j'avais pas tout tort. Et ça, je le repense encore plus maintenant qu'à l'époque. Mais du coup, voilà, on ne peut pas se réconcilier à n'importe quel prix. Il faut être cohérent avec soi-même, avec sa conscience. Voilà. Alors, c'est donc la pardonner, c'est pas se réconcilier, c'est pas la même chose. Et alors, dernière chose, qu'est-ce que c'est que le pardon? Alors, quelques éléments, mais on en parlera davantage la fois prochaine. C'est, alors, je sais plus qui disait ça, mais c'est une tâche humaine et un don de Dieu. Ça veut dire que pour pardonner, il faut aussi se mettre en route, mais que finalement, ça sera couronné par un don de Dieu. Je crois que c'est le père Mambourquette, il a écrit un livre sur le pardon, un très beau livre. Alors, il distingue plusieurs étapes. Alors, c'est les 12 étapes qu'on verra la fois prochaine. Mais au début, c'est un peu les préliminaires. Arrêter d'offenser l'autre ou de vouloir se venger. Ça, c'est vraiment retrouver un climat quand même un peu propice. Et après, il y a toute une étape. Alors, il y a au moins cinq ou six étapes. Ça concerne plutôt une guérison psychologique. Et du coup, pendant toute cette période, c'est reconnaître sa blessure et sa vulnérabilité, partager sa blessure, voir exactement sa perte pour en faire le deuil, accepter la colère, accepter l'envie de se venger, se pardonner à soi-même. Enfin, il y a un certain nombre d'éléments, donc on les verra un peu plus la fois prochaine, mais voilà, il y a vraiment un travail, parce que si on va trop vite, si on court-circuite cette étape, comme j'ai déjà essayé de le dire, ben on essaiera de trop vite vouloir passer à l'acte de pardonner, mais en dessous, il y a des émotions, quelquefois même notre corps, il y a une mémoire du corps, dans certains. Je me rappelle de certaines situations que j'ai vécues qui étaient assez violentes. Des années après, je pense que là, l'oubli a dû faire un peu de travail, mais pas seulement. C'est parce que aussi il y a eu un autre travail qui a été fait. Mais du coup, il y a des choses, qu'on le veuille ou non, il y a des choses, ça nous revient à la mémoire. Et il faut voir comment j'accueille ça, et ça peut prendre un peu de temps quand même. Et du coup, on n'est pas forcément mûr pour pardonner tout de suite. Enfin, je parle de grandes choses. Donc, il y a des choses qui prennent du temps. L'important, c'est d'être sur la route. On est dans la bonne voie. Après, il y a une dimension plus spirituelle, c'est de comprendre son offenseur, ce qui ne veut pas dire forcément l'excuser. C'est aussi de trouver un sens à l'offense. Ça, on verra un petit peu peut-être sur la résilience aussi. Ça, c'est un des éléments de la résilience, c'est trouver un sens. Et puis après, on l'a déjà évoqué la dernière fois, mais Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Alors Dieu ne pardonne pas à partir du moment où on a pardonné, heureusement, parce que sinon on serait bien malheureux. Mais ceci dit, c'est plus la parabole du débiteur impitoyable. Mais ne devais-tu pas pardonner comme moi je t'ai pardonné? C'est d'abord accueillir le pardon de Dieu et d'être cohérent avec le pardon de Dieu. Mais du coup, peut-être goûter davantage ce pardon de Dieu à notre égard. Et recevoir vraiment le pardon comme une grâce. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est de Jean Monbourquette, Monbourquette. Comment pardonner? Oui, comment pardonner, Jean Monbourquette? On est devant sa liberté. Alors, déjà, on est dans des choses souvent un peu délicates. Déjà, on n'impose pas son pardon. Quelquefois, la personne n'a pas le sentiment de nous avoir offensés. Alors, du coup, je te pardonne. Elle le ressent comme une accusation, comme si... Alors, donc, c'est pas toujours très simple de voir. De toute façon, on peut pas imposer. L'important... Alors, on pardonne à quelqu'un, encore une fois, ça c'est vrai, mais autant qu'on le peut, c'est pas toujours possible, hein, et c'est ce que je disais pour la réconciliation, mais autant qu'on le peut, il faut cheminer avec l'autre. Autant qu'on le peut, mais c'est pas toujours facile, et l'autre n'a pas forcément envie, il voit pas le problème. Donc, c'est pas toujours très simple, ça c'est vrai. Mais en tout cas, on peut pas imposer son pardon à quelqu'un. Et ce qu'on peut dire, en revanche... C'est lorsque, dans telle situation, ben, ça m'a fait souffrir. Ça, c'est factuel. Enfin, et on parle de soi, on ne parle pas de lui. On ne l'accuse pas. On dit, ben voilà, moi, ça m'a fait du mal. Après, on n'accuse pas l'autre. Peut-être que ce n'était pas son intention. Peut-être qu'il ne s'en est pas rendu compte. Peut-être que... Bon, après, je ne sais pas, il faut voir les différentes situations. Mais... Nous, on ne peut pas imposer notre pardon, non. Mais c'est vrai que c'est compliqué de pardonner. C'est peut-être plus difficile si on a l'impression que l'autre, ça lui passe complètement au-dessus. Mais peut-être, justement, ça peut peut-être nous éclairer quelquefois sur son... Peut-être qu'il n'avait aucune mauvaise intention. Peut-être que... Je ne sais pas. Après, il faut... C'est des domaines un peu délicats, mais...
Une chose qui me paraît importante, c'est de savoir que le pardon traverse la mort.
Oui.
Parce que si la personne qui nous a fait du mal est décédée, on a l'impression que bah, voilà, la situation est figée. Mais non, on peut quand même, avec le désir de pardonner, recevoir ce pardon et puis en être libéré. Et d'une certaine manière, on peut aussi penser que la personne est libérée de son côté.
Oui. Je ne sais pas si je vous ai déjà raconté une expérience de pardon que j'ai faite. Je vous raconte ma vie. Alors, c'était il y a longtemps, c'était lors de ma retraite, avant d'être ordonné prêtre. Je pensais à quelqu'un qui m'avait fait du mal. Ça m'énervait d'y penser toujours. Visiblement, je n'avais sans doute pas tout pardonné. Et puis, à un certain moment, j'ai dit, bon, allez, voilà, je vais arrêter de ruminer ça dans ma tête et j'écrirai à cette personne. Je voulais pas justement lui dire « je te pardonne » ou parce que la personne n'en était pas là, de mon point de vue. Donc, mais un petit mot, un signe de vie, montrer qu'il n'y avait pas de fermeture, en tout cas de mon côté, que voilà, que j'étais... Et de fait, je suis revenu ici. Mais j'ai été happé par les choses et j'ai pas écrit mon petit mot. C'est pas bien, hein? Mais le Seigneur qui est miséricordieux, Deux jours après, j'ai reçu une lettre de cette personne. Elle n'avait aucune raison de m'écrire, me disant, qui était, en tout cas, la lettre était datée du jour où j'avais pardonné au fin fond d'un oratoire à la campagne. Elle n'en savait absolument rien et tout ça. Mais pour moi, ça m'a beaucoup marqué quand même, cette coïncidence quand même, alors que ça faisait des mois ou des années que j'avais pas eu de courrier. Donc je me suis dit, ah, il s'est passé quelque chose dans l'invisible. En plus, j'avais été complètement délivré après. Après, ça m'avait, quand j'avais posé cet acte dans la prière, là, mais ça, c'était un don qui m'a été fait à ce moment-là. Hein, mais j'ai fait ce que j'ai pu, mais après.
Ce qui peut être bon, c'est qu'il y a deux choses. C'est prier pour la personne, la confier dans la prière, je ne sais pas. La confier dans la prière, et deuxième chose, voilà, dire Seigneur, pour moi c'est difficile, la situation n'avance pas, n'évolue pas apparemment. Mais moi c'est difficile de pardonner parce que j'en reparle parfois et je me dis c'est vrai que j'ai pas pardonné vraiment. C'est toi qui pardonnes pour moi, comme un peu sur la croix, je lui dis pardonne-leur. Il n'a pas dit je leur pardonne, mais pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'il faut. Mais voilà, c'est Dieu, je demande à Dieu qu'il m'aide à pardonner.
Oui.
Il y a plusieurs fois des situations qu'on peut bloquer au niveau communication demander à Dieu que c'est lui qui pardonne en fait. Pour moi c'est difficile, même en parlant c'est difficile et puis j'ai l'impression que voilà. Et puis qu'il y a des petites choses qui s'améliorent, mais c'est pas bien.
Oui, oui.
C'est une question de jeunesse, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience, mais est-ce que vous voyez quelque chose qui peut aider quand en fait c'est pour un bâton qui doit être traité régulièrement, pas pour des grandes offenses, mais qui sont très différentes, des petites choses, voilà, mais qu'il faut renouveler en permanence.
Alors, je ne sais pas si j'aurai des choses miraculeuses à donner, mais déjà, ce qui me semble essentiel, c'est de pratiquer la correction fraternelle. Alors, ce qui n'est pas forcément très simple, mais il faut dire aussi à un certain moment, alors, après c'est la manière de le dire, aussi de la manière de le dire, mais et puis après. Parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut dire les choses, il faut voir comment on le dit le mieux possible. Voilà. Pour ma part, donc, je rencontre les frères tous les 3 mois, plus ou moins, enfin, personnellement. Et souvent, j'essaie de pas dire trop de choses entre les... Enfin, je leur dis bonjour quand même entre deux. Mais quand il y a des choses qui viennent un peu titiller, j'essaie d'être... relativement discret entre ces rendez-vous. Mais du coup, ça a l'avantage de ne pas le dire sur le coup de l'énervement, etc. Donc j'ai pu prendre du recul, j'ai pu réfléchir à la manière dont je peux dire les choses. Et du coup, la manière dont on le dit, ça joue beaucoup sur la manière dont ça sera reçu. C'est pas infaillible non plus, parce que ça peut ne pas être du tout reçu, mais bon, après on est dans les choses humaines, hein, c'est comme ça. Mais je pense qu'il faut dire, parce que sinon, on rêve que les choses s'amélioreront, mais si on ne dit pas, je pense que la correction fraternelle est vraiment importante, mais là encore, la forme est vraiment importante, et il faut que ce qu'on essaie en tout cas de pratiquer, c'est les signes de reconnaissance, dire plein de paroles positives au fil des journées. Et du coup, si au bout de 3 mois, je lui ai dit 200 paroles positives et que ce jour-là, je lui ai dit une parole négative, il ne peut pas dire chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est pour me... Non, il ne peut pas le dire. Parce que ce jour-là, il faut que ça soit sincère, bien évidemment, si je dis les paroles positives, ça me rééduque mon regard, parce que quelquefois, on se focalise sur une chose et on ne voit plus que ça, alors qu'il n'y a pas que ça. Donc, je trouve important de faire la correction fraternelle, mais La correction fraternelle, elle passe si la personne se sent aimée en face. Et si elle se sent acceptée comme elle est. Bon, après, on fait comme on peut, mais... Et puis après, accepter. Pour bien des choses, je vois en vie de communauté, il faut dire les choses. Sinon, si on ne dit pas les choses... Mais en même temps, certaines fois, on voit que ça n'avance pas. Et que les choses, on est toujours au même point depuis plusieurs années. Alors, du coup, on peut se décourager, mais on peut dire, mais voilà, peut-être qu'il faut que j'en prenne mon parti. Et ça, j'insiste quelquefois, parce que, aussi entre frères, de dire, mais si tu acceptes pas, tu vas t'épuiser à vouloir changer quelque chose qui ne changera jamais. Alors, essaie de te faire une raison, ça ne changera pas. Peut-être que tu... c'est pas très facile. Mais il faut avoir essayé de changer avant. Hein. Mais au bout d'un moment, il faut se faire une raison aussi. Sinon, on s'épuise à vouloir changer quelque chose qui ne changera pas. Et souvent, c'est à ce moment-là où on se détend un peu que l'autre change un peu. C'est souvent parce que on met plus de pression à ce moment-là. Bon, voilà, c'est comme ça. J'aurais rêvé que les choses soient autrement, mais... Et du coup... Je vis ma vie un peu différemment en prenant ça comme une des contraintes de ma vie. Voilà, c'est pas ça que je désirais au point de départ, mais c'est une contrainte. Et du coup, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais je pense que cette acceptation, c'est quand même quelque chose qui est, je crois, qui me paraît tellement important. Et encore une fois, ça ne veut pas dire de baisser les bras. C'est pas exactement, c'est pas la même chose quand même. Mais c'est de voir la réalité de manière plus large et de pas se laisser obnubiler par une chose qui nous énerve souverainement et qui peut se comprendre. Hein. Mais du coup, mais avant d'en arriver là, il faut avoir essayé par diverses. Comment on peut faire bouger la situation ? Il faut. Et puis quand on a essayé 1000 stratagèmes et qu'on n'y est pas arrivé, on se dit peut-être que la seule chose qui me reste, c'est d'accepter. Justement pour ne pas m'épuiser. Au bout d'un moment, peut-être qu'il faut juste accepter. On fait comme on peut, hein. Alors, l'indulgence, aujourd'hui, telle que c'est prévu, on peut la recevoir pour soi-même, mais on peut la recevoir pour un défunt. Mais on ne peut pas la recevoir pour un autre vivant. Le défunt, on ne lui demande pas son avis, il est mort. Ça lui fait un peu de purgatoire en moins, ou totalement du purgatoire en moins. Donc, au contraire, il vous remerciera. Hein. Même si sur Terre, il n'aurait pas trop voulu, vous ne le violentez pas en acquérant une indulgence pour lui.
Faire un pèlerinage pour quelqu'un qui est mort,
ça vous... Non, alors moi... l'indulgence est plus facile actuellement. Vous allez à la cathédrale de Noyon. Là, ça vous prend 10 minutes. Dans certains cas, oui. Mais c'est quelque chose de beau de faire quelque chose pour une démarche, pour un défunt, pour que le Seigneur l'accueille au ciel. Oui, c'est une belle démarche hein, qui est désintéressée. Parce qu'on peut prier les âmes du purgatoire. Hein, l'idée, c'est qu'une fois qu'on est au purgatoire, on ne peut plus rien pour soi-même. Mais on peut pour les autres. Donc, c'est comme une invitation à se soutenir mutuellement, à exercer la communion des saints. Donc, vous pouvez les prier. Vous pouvez prier les défunts de vos familles. Bon, alors, on ne sait pas trop s'ils sont déjà au ciel, s'ils sont encore au purgatoire, mais peu importe. Après, ils s'arrangent là-haut. Mais... Il ne peut pas prier pour lui-même, il ne peut pas... Pour les autres. Il ne peut pas être égoïste, égocentrique, disons. Ah oui. Oui, bien sûr, il ne faut pas les laisser au chômage. Et au contraire, ça les aide, non, On arrête là.